9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre, le plaisir de vous retrouver chaque semaine et le plaisir de votre fidélité hebdomadaire. Bonjour Malika Rahal.
Bonjour Samia.
Merci d'être là ce dimanche matin, vous aussi. Nous allons parler d'histoire, je vous le rappelle, chaque dimanche en ce mois de mars, l'émission Voix au chapitre est consacrée à l'Algérie, mars 62, mars 2022. Il n'aura pas échappé aux auditeurs auditrices que 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie, diront certains, pour d'autres il s'agira de l'indépendance de l'Algérie, au lendemain de 130 ans de colonisation et de guerre, qui dira bien après qu'elle fut nommée des événements. Mars 2022, donc, 60 ans après, comment raconter l'histoire? Comment apporter aujourd'hui cet éclairage pour comprendre ce que fut cette guerre? Il a paru près de 30 livres depuis le début de cette année, de l'histoire, des témoignages, des photos, des archives, pour compléter cette connaissance pour chacun et chacune. À la télé, des émissions de radio aussi, n'échappent pas à cette commémoration. Des documentaires remarquables. Je vous rappelle celui de Raphaël Branche, qui est passé il y a quelques semaines déjà. Et ce documentaire remarquable aussi sur Arte, qu'on a vu tout récemment de Georges-Marc Benhamou et de Benjamin Storin. Là aussi, des témoignages d'Algériens d'ici et de là-bas, des Pieds Noirs, des Harkis, tous ces groupes mémoriels, comme on dit aujourd'hui, qui racontent un peu, beaucoup, passionnément, ce qu'ils sont, Algériens, Algériennes. Alors évidemment, ce mois de mars consacré aux publications sur l'Algérie me donne rendez-vous ce dimanche matin pour mon plus grand plaisir avec Malika Rahal et nous allons parler de son livre « Algérie 1962 », une histoire populaire. Cet ouvrage est paru aux éditions La Découverte. Vous présentez d'abord Malika Rahal. Vous êtes historienne, chargée de recherche au CNRS et spécialiste de l'histoire contemporaine de l'Algérie. Vous dirigez depuis ce début d'année l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment d'une biographie d'Ali Boumendjel, qui fut cet avocat et militant nationaliste assassiné en 1957. Il est paru dans une édition de poche chez le même éditeur aux éditions La Découverte. Tout d'abord, Malika Rahal, quand j'évoque dans cette introduction la production, la foison de tout ce qui va paraître et qu'on va entendre sur cette commémoration des 60 ans, quelle importance cela revêt selon vous, cette production? C'est pour l'apaisement, c'est pour la réconciliation?
Alors je doute toujours, je ne sais pas très bien toujours ce qu'on entend par réconciliation. Par contre, on le sait, et on le sait parce qu'on se souvient de comment c'était déjà il y a 10 ans. C'est toujours des moments assez importants parce que c'est des moments où d'abord on publie beaucoup, on parle beaucoup, on discute beaucoup, on a un accès tout d'un coup très important aux médias que peut-être on n'a pas en si grande quantité d'habitude. Et du coup, ces années anniversaires, c'est des années qui laissent des traces où après, par exemple, pendant très longtemps, on va pouvoir citer un peu tout ce qui a été digéré, cité, réutilisé, tout ce qui est paru durant ces années. Et puis en même temps...
Les langues se délient aussi à ce moment-là.
Les langues se délient, on a des échanges que peut-être on n'a pas eu l'occasion d'avoir. Et puis en même temps, on voit aussi un calendrier. Par exemple, en France, on sait que la grande date, la date importante, c'est vraiment le 19 mars et le moment du cessez-le-feu, des accords d'Évian. Par contre, en Algérie, ce qui va être la grande date, ça va être plutôt le mois de juillet avec l'indépendance réelle.
On va revenir justement dans ce questionnement sur l'importance que, et puis cette liesse, effectivement, le 5 juillet, mais aussi quand même le 19 mars. Le 19 mars, il y avait aussi une présence importante d'Algériens, malgré la violence de l'OAS, toujours sur le terrain, notamment à Alger, où il y avait encore, ils avaient perdu la guerre, enfin ils avaient perdu, et ils allaient être à la fois revanchards sur la communauté algérienne, voire même la communauté qui vit en Algérie, y compris les groupes mémoriels dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ce travail important que vous menez dans Algérie 1962, une histoire populaire, est intéressante parce qu'elle, je pense qu'elle est assez inédite comme focus précisément sur l'Algérie 1962. Comment a germé cette idée de montrer juste là, nommément, Algérie 1962? 19 mars 62, la guerre est finie, mais on regarde quand même derrière, mais on va avancer.
Et bien précisément, je pense que l'idée n'est pas encore tout à fait claire dans ma tête, mais elle est vraiment née il y a 10 ans, en 2012, quand on commémorait le 50e anniversaire. Et je vais prendre juste un exemple. On avait organisé avec des collègues un grand colloque à Oran sur 1962. On avait voulu inviter beaucoup de gens dans le monde entier qui pouvaient nous parler un peu de comment l'événement avait été vécu aux États-Unis, en France, en Chine, en Afrique, en Amérique latine. Donc beaucoup de gens étaient venus pour nous dire l'importance de cet événement. Mais en fait, notre appel à contribution n'a fait venir que très peu d'interventions de personnes qui allaient nous parler de l'Algérie en 62. Moi, je commençais à avoir quelques questions, mais pas beaucoup de réponses encore. Mais au fond, c'était très étrange. C'est comme si c'était un événement mondial, mais dont le centre n'était pas connu. C'est-à-dire, ce qui se passe en Algérie concrètement, on n'en avait aucune idée précise. Il y a certains phénomènes qu'on a commencé à connaître mieux au fil du temps. Je pense par exemple aux travaux par exemple de Giulia Fabiano, qui faisait partie de ces organisateurs sur l'expérience des Harkis par exemple. Mais il y avait beaucoup de questions qui restaient en suspens. Et au fil des années, depuis 2012, je me suis dit, mais quand même, c'est vraiment ce trou noir, ce fait de mal connaître, ça a fait naître le désir de savoir. Et petit à petit, en fouillant, j'ai réalisé qu'il y avait des phénomènes énormes dont on n'avait aucune idée. Je prends juste un exemple, le fait qu'il y ait plus de 300 000 réfugiés algériens en Tunisie, au Maroc, qu'on ait organisé en 1962 un des très grands déplacements de réfugiés, de retour de réfugiés dans l'histoire contemporaine en fait. C'est ce que disent les gens du HCR, du Haut Commissariat aux réfugiés, c'est ce que disent les gens de la Croix-Rouge. C'est pour eux une très grosse opération, une espèce de défi logistique. Il faut ramener les gens alors qu'il y a plein de champs de mines, il faut faire des tracés sécurisés, il faut vérifier qu'ils aient de quoi se nourrir et se loger, des tentes pour quand ils vont arriver en Algérie. Et ben ça en fait, à ma connaissance, ça n'avait pas été décrit, alors que c'est un phénomène considérable. Et des phénomènes comme ça qu'on ne connaît pas, il y en avait plein en fait. À mesure que j'ai commencé à chercher, j'en ai découvert beaucoup, et c'est comme ça qu'est née l'idée un peu de les rassembler dans un livre portant spécialement sur l'année 62.
Parce que l'année 62, on est au lendemain de la guerre, donc 19 mars 62, les accords d'Évian, et l'Algérie doit se construire, est en phase de se construire, mais les Algériens aussi doivent se reconstruire, parce qu'on est au sortir de la guerre, et puis on est avec cette douleur, il y a des disparus, il y a des... Et vous savez que ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'il a de l'humain, effectivement, puisqu'il y a des témoignages dans les chapitres très très historiques, très très universitaires, hein, il y a cette accessibilité de l'histoire au travers ce que vont dire les uns et les autres, et je trouve que c'est un regard important, parce que la parole de celles et ceux qui vivaient en Algérie, quel qu'ils soient dans leur groupe mémorial, je le répète, ce terme, il va revenir, parce que c'est comme ça aussi qu'on a défini l'Algérie. Il y a des Algériens, il y a des Français, il y a des pieds noirs, etc., etc. Donc ça aussi, vous avez eu l'importance de dire ces groupes mémoriels qui sont partis.
Oui, en fait.
Pas tous d'ailleurs, mais on y reviendra.
En fait, ce qu'on connaissait le mieux de 62 jusqu'à maintenant, c'était deux choses. C'était, en gros, les événements très politiques, donc le cessez-le-feu du 19 mars, l'indépendance de juillet, le transfert de souveraineté entre les deux, la naissance des institutions algériennes, éventuellement aussi la crise que connaît le Front de Libération Nationale au moment d'accéder à l'indépendance, et les conflits entre Algériens qu'on connaît bien parce qu'ils sont très traumatisants quand même pour les Algériens.
Ceux-là ont été racontés.
Ceux-là, on commence à bien les connaître. Il y a des travaux très importants d'un historien qui s'appelle Amar Mohand Amar, qui permet vraiment de connaître la crise dans le détail, presque jour par jour. Et puis ce qu'on connaissait beaucoup aussi, c'était l'expérience de ceux qui partent, l'expérience tragique des pieds noirs qui quittent un pays.
Qui embarquent en bateau, qu'on voit toutes les images reviennent régulièrement.
On connaît ces images d'un départ précipité, d'un départ où ils sont obligés d'abandonner derrière eux leurs biens. On commence à connaître mieux le départ de certains des Harkis, mais par exemple, on ne connaissait pas très bien du tout l'histoire de Harkis qui seraient restés en Algérie. Et du coup, l'objectif, c'était de raconter cette histoire de ceux qui restent et qui vont constituer l'Algérie. Mais comme vous dites, c'est un moment où 62, c'est une sorte d'entre-deux, de temps un peu suspendu, où on n'a pas encore complètement délimité qui va être algérien complète, la limite en quelque sorte de la nation, de la nationalité, de l'entre-soi algérien. Et on est dans ce temps d'expérience très très humaine que les gens ont peu raconté. Les gens n'ont pas considéré que par rapport à cette histoire politique, raconter les histoires de festivités, les histoires de robes cousues, les histoires de repas pris entre hommes et femmes, alors que peut-être ça ne se faisait pas dans certaines familles, c'était des histoires en fait finalement importantes à raconter pour montrer à quel point l'événement était spectaculaire.
Malek Harral, Algérie 1962, une histoire populaire, c'est le titre de son livre. Elle est l'invitée de Vos Chapitres ce dimanche matin. Ce livre vient de paraître aux éditions La Découverte. On la retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Poursuivons notre rendez-vous ce dimanche matin de Voix au chapitre. Je rappelle que je reçois Malek Harral, Algérie 1962, une histoire populaire. C'est le titre de son ouvrage. Il vient de paraître aux éditions La Découverte. Et dans le titre même, vous avez bien entendu compris qu'il s'agira d'évoquer dans cet essai toute cette période de l'Algérie 62 qui commence à mars 62 et 60 ans après, évidemment, évoquer cette Algérie encore au travers ses livres et au travers ses films. J'en ai parlé tout à l'heure. Dans votre livre, j'allais presque dire le parti pris, je ne sais pas si je le formule bien, c'est aussi d'évoquer cette diversité de mémoire avec ceux qui ont quitté l'Algérie en 62. L'Algérie, elle est multiple dans sa population. Vous évoquez ses composantes qui deviendront donc ces groupes mémoriaux, les appelés, les pieds noirs, les harkis, la communauté juive, et ceux qui partiront dès 62. Vous l'avez évoqué avant notre pause, mais certains resteront. Et vous êtes intéressé à la fois à ce départ et ceux qui restent. Comment vous avez procédé? Vous avez rencontré des gens qui racontent 62, 60 ans après?
Oui, et puis l'idée, c'était vraiment de déplier 1962, c'est-à-dire que nous on regarde 1962 avec le recul du temps et du coup ça nous paraît évident, c'est-à-dire l'indépendance est certaine, la fin de la guerre est certaine. Quand on rentre dans l'événement, on se rend compte que tout ça est plus incertain, qu'il y a des gens qui doutent, qu'il y a des gens qui ont peur que l'indépendance n'advienne pas, même après le cessez-le-feu, il y a des gens qui ont peur que la guerre reprenne et qu'on n'arrive pas à l'indépendance, mais aussi il y a des gens par exemple qui ont fini par partir. Mais en 1962, semaine par semaine ou jour par jour, en fait, cette décision, elle n'est pas évidente. Il y a des familles où ça se négocie, par exemple des familles de Français.
Parce que ça a pris du temps, pardonnez-moi. Ça a pris du temps. Il y en avait 300 000 dès 62, au lendemain, j'allais dire. Et sur le temps, il y en a d'autres qui sont arrivés, près d'un million.
Alors, on avait 1 million de Français vivant en Algérie. Il y en a 650 000 qui partent durant l'année 1962. Le gros des départs, c'est mai-juin 1962. Mais en fait, il y a des tas de familles pour lesquelles, pendant assez longtemps, c'est un jour oui, un jour non. C'est-à-dire, on pense qu'on va pouvoir rester, on entend des rumeurs, on a peur, des voisins sont tués, des gens sont enlevés, ces rumeurs, elles sont vraies ou elles sont fausses, on décide qu'on va partir. Ou alors, on n'est pas d'accord. Des couples où il y en a un qui a plus peur que l'autre, l'autre essaie d'avoir confiance. Enfin, voilà, ces décisions, elles se prennent pas du tout du jour au lendemain. Et même parmi ceux qui finalement sont restés, c'est-à-dire, aujourd'hui, on les connaît comme des gens qui sont demeurés en Algérie, qui ont fait leur vie là-bas, qui peut-être ont pris la nationalité algérienne à l'indépendance. Il y a des petits signes qui rappellent qu'en 62, ils auraient presque pu partir finalement.
Et qu'est-ce qui les a empêchés de partir? C'est à la fois dans l'émotion et dans leur vie ici, en Algérie, bien sûr.
Alors, ce qui fait la différence de façon collective, des fois c'est le hasard, mais ce qui fait la différence de façon collective,
ils étaient
c'est
bien
les
en Algérie,
attachements.
Voilà.
C'est les attachements, le fait. Alors, collectivement, les Français d'Algérie ne se projetaient pas du tout dans une Algérie, dans une république algérienne qui leur proposait une égalité de statut juridique. La colonisation, elle s'est construite sur l'inégalité et du coup sur le fait quand même de bénéficier d'un statut supérieur par rapport à la majorité de la population. Ce que la République algérienne leur promettait, c'était la disparition de ce statut. Et pour beaucoup d'entre eux, c'était très difficile de se représenter dans cette Algérie à venir. C'était inquiétant, ça faisait peur. Du coup, beaucoup choisissent de partir. Ceux qui restent bien souvent sont ceux qui avaient des sociabilités qui leur permettaient néanmoins d'avoir une familiarité dans ce monde à venir. Pour les autres, Ce qu'il faut imaginer, c'est des quartiers qui se vident, où leurs voisins tout d'un coup sont remplacés par des gens qu'ils ne connaissent pas, dont parfois ils ne connaissent pas la langue, avec des mœurs un peu différentes, et une perte, un effondrement total de la familiarité. Et du coup, la question de savoir peut-être à quoi bon rester ici, comment on va se reconstruire une vie ici, et petit à petit, la décision du
partir va arriver.
Mais il y a une dimension aussi un peu de hasard. Au fait de partir ou de rester pour quelques-uns, c'est la décision d'un moment. Certains aussi disant après coup qu'ils l'ont regretté, que peut-être ils auraient pu tenter leur chance aussi en Algérie, que ça aurait été une possibilité. Mais c'est vraiment 62, et pour tous, hein, pas seulement pour les Français d'Algérie, c'est un temps des paris. On fait des paris sur l'avenir. On imagine qu'on va pouvoir rester, on imagine qu'on va pouvoir refaire sa vie ailleurs, on imagine qu'on va être mieux en ville, qu'on va changer de lieu, qu'on va se reconstruire ailleurs. C'est un temps des paris.
Parce que quand on dit les Français d'Algérie, en fait, il n'y avait pas que des Français en Algérie, il y avait des Espagnols, il y avait des Maltais. Comment ça se passait pour eux?
Oui, c'est
ils,
très...
ils étaient aussi dans cette interrogation de partir, de rester?
Alors, cette communauté française, elle est composée de différents groupes finalement, et elle s'est composée au fil des années ou au fil des décennies. Par exemple, un des groupes qui peut-être se distingue le plus, c'est le groupe des Juifs d'Algérie, qui sont devenus citoyens à la fin du 19e siècle avec le décret Crémieux en 1871, et qui se sont progressivement intégrés. Mais certains, plus que d'autres, ils ont acquis la langue, ils ont changé
la musique,
de vêtements,
voilà, la culture est ressemblante quelque part.
Est resté des choses. Dans certaines familles, il est resté la langue presque jusqu'au bout, avec de très grands changements d'une génération à l'autre, et avec progressivement quand même cette adhésion à l'idée de la France, des fois des changements de quartier. Par exemple, entre les années 30 et les années 50, une ville comme Constantine, on voit que beaucoup de familles juives, mais pas toutes, quittent les quartiers du centre de la ville qui sont restés les quartiers algériens pour perdre cette familiarité avec les familles musulmanes et aller s'installer dans des nouveaux quartiers européens.
Qui vont construire aussi espace d'une communauté,
de nouvelles familiarités, qui vont du coup donner une familiarité nouvelle et un attachement à cette idée de la France. De sorte qu'en 62, pour beaucoup d'entre eux, même si la France demeure inconnu, c'est une idée importante, c'est une idée familière qui peut pousser à ce choix. Le choix, et je pense qu'il faut vraiment le dire, il est aussi poussé par le chaos de 1962, la violence celle de l'OAS, et aussi une violence qui des fois de brigandage, d'enlèvement, de violence contre les biens et parfois contre les personnes européennes du fait des Algériens aussi.
Sur cette communauté, sur ces groupes, vous racontez bien dans le livre à la fois qu'est-ce qui va rester en Algérie, les Algériens, les Algériennes, qui vont-ils être en 1962? Ça va être un entre-soi, ça va être comment se construit l'Algérie avec des Algériens et des Algériennes.
Alors, il faut dire que cette construction qu'on voit se cristalliser ou devenir beaucoup plus rapide en 1962, elle se construit sur une histoire longue, sur le partage notamment d'expériences, de souvenirs. Dans beaucoup de familles, on transmet encore, par exemple, le souvenir de la terre perdue, de la terre séquestrée par la colonisation, parfois au 19e siècle ou encore dans les années 30. Elle se construit aussi sur toute la construction politique du nationalisme depuis les années 30, les partis politiques, leur travail vraiment pour mobiliser et construire sur les expériences de la guerre, les expériences partagées qui accélèrent la construction d'une expérience commune. Mais 62 aussi, ça propose des expériences fondatrices. Ça rajoute à cela des expériences fondatrices. Peut-être l'expérience la plus émouvante, la plus marquante, celle qui marque vraiment les souvenirs des témoins, c'est les festivités de 1962. C'est le fait d'avoir fait la fête, les fêtes, dès le 19 mars, dès l'annonce du cessez-le-feu, jusqu'aux festivités de juillet qui sont les plus exubérantes.
L'apothéose, oui.
L'apothéose, comme vous dites, des festivités. Et là, vraiment, il y a un fait d'en avoir été ou pas. C'est-à-dire qu'on a ça en commun, d'avoir partagé ces moments inoubliables. Et d'une certaine façon, ça nous fait aussi algériens. Ce qui est très intéressant, c'est que on voit bien que quelques-uns des Français d'Algérie se joignent, veulent en être. D'autres, au contraire, regardent ces festivités avec un tout petit peu de crainte, avec de la méfiance, avec, au contraire, le sentiment que ça ne nous concerne pas.
Ça ne les concerne pas, voilà, oui.
C'est pas pour eux. Mais on voit quelques personnes qui disent, ah non, moi, je voulais pas du tout rater ça. Je suis descendue dans la foule. Je voulais voir, je voulais entendre, je voulais participer également.
Certains témoins dans votre ouvrage, quand il parle des festivités, justement, il y a des hésitations, il y a le beau souvenir de la liesse, effectivement, mais il y a le souvenir des disparus. Ça aussi, ça a été quelque chose qui est très qui est présent dans le livre, dans justement l'idée de que les Algériens, bien sûr, ils se souviennent de l'indépendance, y compris en France. On y reviendra peut-être, dans l'immigration, les drapeaux, dans les quartiers où vit l'immigration, en région parisienne ou ailleurs en région. Mais il y a aussi, il y a la liesse, et puis il y a les disparus.
Oui, en fait, une des façons dont on refait communauté après la guerre, où on se construit, où on construit de nouveaux liens, on rajoute de nouveaux liens à ceux qui existent déjà, c'est les retrouvailles, c'est le fait de commémorer les disparus. Concrètement, de quoi est-ce qu'il s'agit? Dans les familles, par exemple, au moment où on se retrouve, où reviennent les réfugiés, où reviennent les emprisonnés, les détenus, quand ils reviennent dans leur famille, on s'assied pour se retrouver, prendre le premier café ensemble, et en fait, dans ces retrouvailles, il y a une présence très forte des disparus. C'est-à-dire qu'on échange des nouvelles, on se dit ce que les uns et les autres ne savent pas encore, on nomme les gens et on fait une sorte d'état des lieux. Tel, il est à tel endroit, il n'est pas encore revenu. Tel, il était en prison. Tel, on n'a pas de nouvelles. Tel, on sait qu'il est mort. Tel, on sait qu'elle a été tuée. Et ce qui est très émouvant dans la façon dont les témoins racontent ces retrouvailles, c'est qu'au fond, les disparus sont encore présents. On les énumère. On dit leur nom, il y a une sorte de gravité dans ces premières retrouvailles, et au fond il y a du sacré dans ces premières retrouvailles. La grande peut-être expression commune de 1962, c'est la phrase Allah yarham shuhada, que Dieu ait pitié des martyrs, ou que Dieu ait prenne les martyrs en miséricorde, qu'on dit dans ces retrouvailles, mais qu'on dit aussi, par exemple, dans les grandes festivités, on chante plein de slogans heureux à la gloire de l'Algérie indépendante, mais aussi parfois, on marche collectivement dans la rue en chantant l'index levé.
Un seul héros, le peuple aussi.
Et un seul héros, le peuple. Vive l'Algérie indépendante, Algérie algérienne. Enfin voilà, on a ces slogans heureux de la, qui marquent l'indépendance, et on a ces slogans du deuil. Moi, un peu comme tout le monde, quand j'arrive face à cet événement, je me dis bon, ben il va y avoir des moments tristes et des moments heureux. Ils vont être distincts. Mais en fait, ce qui est très troublant, c'est qu'ils sont le deuil et la fête ont lieu en même temps.
On va vous retrouver dans une dernière partie de notre rendez-vous, et nous allons parler justement dans vos chapitres, à la fois de ce que retient les Algériens, les Algériennes dans leur corps, de manière individuelle et de manière collective, parce que c'est aussi quelque chose de très important qui est dit là. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Malik Arahal. Son livre vient de paraître aux éditions La Découverte, Algérie 1962, une histoire populaire.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Avec Malika Arahal, ce dimanche matin, dans Voix au chapitre, elle est l'auteur de Algérie 1962, une histoire populaire. Ce livre vient de paraître aux éditions La Découverte. Vous l'avez entendu, on parle depuis ce début d'émission de cette période circonscrite, donc en 1962, effectivement, cette histoire populaire, cette histoire des Algériens, des Algériennes que vous nous racontez là, Malika Arahal, que vous nous racontez historiquement, avec une réflexion d'historienne, c'est aussi une histoire humaine, donc des hommes et des femmes ont souffert de cette guerre, et dans cette guerre, il y a les corps qui parlent aussi. Expliquez-nous un peu comment vous associez dans le regard que vous portez, l'analyse que vous portez sur cette guerre, comment les Algériens vont prendre en main leur corps, et on retrouve chez tous la mémoire de ce corps meurtri, de ce corps qui a souffert. Ça a été aussi dit par vos témoins, et qui racontent, il y a la liesse dont on parlait tout à l'heure, mais il y a aussi ce corps qui a souffert.
La question du corps, elle est venue parce que peut-être c'est une année très photogénique, hein, 1962, avec ces grandes festivités dont on a parlé. On a beaucoup de vidéos de différents médias, notamment des journalistes étrangers qui sont venus filmer. On a aussi beaucoup de photos, certaines sont des photos privées, où on voit les corps festifs, les corps dansants, les corps qui se mêlent, les corps d'hommes et femmes mêlés, ce qui est quand même une grande affaire. Hein,
150 personnes dans un camion.
Exactement, voilà, hommes et femmes, ce qui n'est pas du tout...
Les drapeaux flottants.
Et du coup, je me suis posé la question de ce sentiment de libération des corps, de la transe aussi, dans lesquelles les gens manifestement pouvaient se mettre dans les festivités. Du coup, ça m'a amené à faire un peu attention, par exemple dans les mémoires d'acteurs ou dans les entretiens que je pouvais faire, à la façon dont les gens parlaient des corps. Alors par exemple, je parlais tout à l'heure des retrouvailles. Une des choses, moi, qui m'a beaucoup frappée, c'est que lorsque les gens se retrouvent, souvent, quand ils ont été séparés longtemps, ils se reconnaissent ou ils ne se reconnaissent pas. Et quand ils ont vécu la guerre séparée, ben leurs corps ne sont pas marqués de la même façon. Des maquisards qui redescendent du maquis, ils sont pas très nombreux, hein, survivants en 1962, quand ils arrivent, leurs proches sont un peu sidérés du degré de maigreur et de fatigue physique.
Voire de blessures.
Les gens qui sortent, par exemple, de camps, notamment les camps de détention aussi, sont très marqués. Et là, on le trouve dans les témoignages de gens qui se retrouvent. Par exemple, une note étonnante, c'est celle des médecins qui s'occupent du rapatriement des réfugiés. Les réfugiés de Tunisie et du Maroc ont été un peu pris en charge par des organisations de secours, Croix-Rouge tunisienne, marocaine, Croix-Rouge internationale, etc. On a apporté du lait, un peu de suppléments alimentaires. Pourtant, c'était pas non plus bombance, hein, c'était pas extraordinaire. Mais en fait, lorsqu'ils rentrent en Algérie, les médecins notent: ils sont plutôt en meilleure santé que les gens qui sont à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que tous les gens qui ont vécu à l'intérieur ont été plus marqués encore par la guerre que ces réfugiés qui étaient dans des camps de réfugiés à l'extérieur. Donc cette question du corps, elle se posait pour moi comme ça, à travers cette notation. Et puis la grande question des corps aussi, on l'a dit tout à l'heure, c'est la question des corps manquants, des corps des disparus, des corps morts qu'on va rechercher, des gens qui ont appris que tel ou tel a été tué mais ne savent pas où a été enterré son corps, des gens qui vont se remettre en quête des corps pour pouvoir ramener les restes et les réinhumer proches d'eux dans des cimetières. C'est les premiers, dès 1962 se créent les premiers cimetières de martyrs où on va ramener les restes humains des combattants qui avaient été enterrés par leurs anciens camarades. Mais aussi, c'est la question de comment on refait corps collectif et comment d'emblée il y a une sorte de prise en charge
soit, voilà,
par soi. Comment les Algériens, dès 1962, notamment face à la violence de l'OAS, se disent, mais en fait, nous, on ne va pas laisser nos blessés dans les hôpitaux français où l'OAS risque de venir les achever et vient parfois les achever très réellement. On va sortir ces blessés.
Et puis, ils vont faire des lieux de soins, improviser des lieux de soins et prendre en charge la communauté blessés.
On va créer des cliniques informelles et on va nous être capables de s'occuper de nous-mêmes dans nos quartiers assiégés par l'OAS. On va pouvoir montrer qu'on est capable de se prendre en charge nous-mêmes. L'État algérien n'est pas encore créé, les institutions algériennes n'existent pas encore, mais localement, on a cette prise en charge par soi-même qui laisse une immense fierté dans les souvenirs des personnes. L'impression vraiment qu'on est capable en 62 de faire des miracles.
En 62, 2022, 60 ans après, celles et ceux que vous avez rencontrés pour votre travail se sont livrés facilement à parler de 62?
Alors oui et non. Il faut un peu savoir poser les questions. Il faut savoir arrêter d'abord le premier discours qui est celui un peu officiel, un peu public, celui qui est celui de la presse, de l'espace public, qui est celui où on commence toujours par déplorer la crise de 1962 et on attribue toujours à 1962 la cause des malheurs que l'on connaît depuis, en quelque sorte. Il y a un discours un peu mythique sur 1962 qui serait la cause de tout ce qui ne va pas, et d'entraîner les gens vers des choses plus personnelles. Et là, vraiment, c'est toujours un moment de révélation, c'est-à-dire quand on demande, et les festivités Et ou quand on interroge
où étiez-vous
ou... voilà, voilà, où étiez-vous, qu'est-ce que vous avez fait, ou quand on interroge les femmes qui peut-être un peu moins que les hommes ont ce discours d'abord politique, d'abord un peu public, et là on rentre dans le plus personnel, et très vite les gens rentrent dans des états d'émotion tout à fait troublants, les gens pleurent, les gens rient, ils trouvent pas tout à fait les mots pour raconter ces énormes émotions, des fois contradictoires. Ils n'y croient pas tout à fait, et souvent ils ont des formules pour dire mais j'ai un peu de peine pour vous qui n'avez jamais vécu un moment comme celui-là. Je n'ai jamais vécu un moment comme ça à un autre moment de ma vie. C'était inouï. Ils trouvent pas tout à fait les adjectifs pour dire l'immensité de ce moment. Ça, c'est vrai en Algérie, mais finalement c'est vrai aussi dans l'émigration algérienne.
Alors justement, j'allais vous demander ce regard et cette analyse que vous faites dans votre ouvrage, c'est des rencontres avec des Algériens algériennes là-bas, et dans l'immigration, vous en avez rencontré aussi, qui témoignent de leur...
Oui, ce qui est très étonnant, c'est que on a des choses très similaires. Dans l'émigration, par exemple, là où on participe finalement au phénomène collectif, c'est que, par exemple, beaucoup de prisonniers ont été arrêtés en France, ont été mis en prison en France, ont été conduits d'Algérie vers des prisons françaises. À la fin de la guerre,
par exemple,
on déplace des gens d'Algérie vers la France, par exemple, pour éviter qu'ils soient assassinés par l'OAS en prison. Il y a des avocats qui demandent le transfèrement de leurs clients vers la France pour les protéger. Et donc, au moment du cessez-le-feu, ces gens sont libérés de prison française et il faut organiser leur prise en charge, parfois pour les reconduire en Algérie. Et on voit se mobiliser les militants du Front de Libération Nationale pour organiser le rapatriement, collecter des vêtements, faire des listes, trouver les adresses des personnes pour contribuer à les mettre dans des avions, les renvoyer en Algérie. Pour les familles algériennes en France, il y a la participation à des festivités, comme en Algérie, par exemple le 5 juillet, on se met sur son 31, on sort les costumes, on sort les belles robes, on coud des drapeaux et on organise des choses ensemble. Et pour beaucoup de familles, il y a une vraie question qui est celle de... tiens, est-ce que ça serait pas le moment finalement de rentrer,
repartir,
ouais, de rentrer en Algérie? Il y a quelques familles qui...
On a des chiffres là-dessus? Vous avez...
Non, non, on n'a pas de chiffres.
C'est un autre travail finalement, effectivement.
Ça serait un autre travail, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de migration en tous sens en 1962, mais on trouve des témoignages d'individus particuliers, donc ça nous permet pas de compter, mais ça nous permet d'avoir ces histoires d'enfants qui disent ah oui, mon père à ce moment-là a choisi de repartir. Quelquefois, ce retour n'a pas été définitif. Dans certains cas, oui, on rencontre en Algérie des gens qui ont grandi en France, mais dont les familles ont choisi de venir se réinstaller en se disant, voilà, c'est le moment où il faut contribuer à la construction du pays.
Merci Malik Haral d'être venu nous parler passionnément d'Algérie 1962, une histoire populaire. C'est le titre de votre livre, il vient de paraître aux éditions La Découverte. Un mot encore quand même sur à la fois cette somme idée de travail et d'analyse. Dans votre livre, il y a une bibliographie sélective en fin d'ouvrage, et il y a aussi toute la production aussi de musique, de films qui ont été faits aussi sur cette période.
Oui, j'ai beaucoup réfléchi à partir de vidéos, à partir de musique, de chansons, et donc il y a autant que possible, il y a les liens vers ces sources. Donc d'une certaine façon, si on est curieux, on peut aussi lire le livre en musique ou aller regarder ces vidéos, moi qui m'ont toujours bouleversée et aidée à penser, aidée à réfléchir.
Merci infiniment d'être venu, Malik Haral, nous... Merci. Présenter votre livre ce dimanche matin à Voix au Chapitre. Je rajouterai justement en conclusion de cette émission autour de l'Algérie encore en ce mois de mars, des parutions importantes, hein. Il y a des hors-séries qui viennent de paraître aussi, qui sont importantes, qui est le hors-série du Nouvel Observateur, le hors-série de La Croix, aussi remarquable, et le hors-série de Marianne, et puis de voilà des contributions très importantes dans de nombreux magazines aujourd'hui pour cette commémoration des 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie, je l'ai dit, et de l'indépendance de l'Algérie. Au revoir à tous, au revoir à toutes, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au Chapitre. D'ici là, portez-vous bien.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.